Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, Monsieur le Supérieur Général, chers confrères, mes sœurs, chers fidèles, qu'il me soit permis de dire tout d'abord ma joie de pouvoir soulager Monseigneur Lefebvre en faisant cette longue cérémonie qu'il a fidèlement faite pendant tant d'années. Et que nous faisons à sa place. Et qu'il me soit permis en même temps, Monseigneur Lefebvre, de dire sans aucun doute de la part de nous tous nos remerciements de votre courageuse décision d'il y a 2 ans, dont maintenant, depuis 2 ans, nous voyons les 6 bons fruits. Et pour cela, que veut-on faire? Eh bien, on veut vous traîner devant les tribunaux pour des raisons de racisme. Je sais bien de quel racisme il s'agit. Et messieurs des tribunaux le savent aussi. Monseigneur Lefebvre est responsable de toute une nouvelle race de prêtres. C'est une engeance du sacerdoce catholique pour laquelle on lui en veut et pour laquelle on l'attaque pour raison de racisme. Monseigneur, félicitations de votre beau racisme. Nous continuons donc à votre place en ordonnant aujourd'hui, je crois bien, 12 de prêtres. C'est un très grand privilège et une grande joie pour nous tous. Si autrefois dans les contes de fées, terminés toujours dans le bonheur d'un mariage, et ils ont vécu heureux à partir de ce moment-là, à combien plus forte raison le bonheur qui termine dans le mariage d'un jeune homme à l'église. Il est vrai que le mariage d'un jeune couple est une occasion de bonheur. Les 2 jeunes s'engagent l'un à l'autre et enclenchent l'avenir. Parce que le mariage est prometteur, bien sûr, d'enfants. Et un jeune homme doit avoir décidé, pris quelques décisions, et des décisions valables pour s'engager dans les liens du mariage, à combien plus forte raison dans les liens du sacerdoce. Et donc c'est pour nous tous, comme chaque année ici, une grande occasion de joie que nous avons encore 12 jeunes hommes qui ont le courage de s'engager à porter le fardeau du sacerdoce jusque dans l'éternité. Évoquant quelques mystères dans lesquels ils s'engagent, en les félicitant et en les remerciant de leur exemple et de leur courage également. Parce que ce n'est pas rien aujourd'hui que de faire face à tous les ennemis du vrai sacerdoce, qui sont de jour en jour toujours plus déchaînés. Tous les mystères sont engagés, on peut dire, dans le sacerdoce, à partir de celui de la Sainte Trinité. L'amour du Père pour son Fils, l'amour du Fils pour le Père dans le Saint-Esprit. Cet amour depuis l'éternité, l'activité immuable de la Sainte Trinité, qui fait que notre Seigneur assume une nature humaine en disant les très belles paroles du psaume cité par saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Seigneur, tu n'as plus voulu d'holocauste ou d'offrande pour le péché. Me voici, tu m'as donné un corps, me voici pour faire ta volonté. C'est les sentiments les plus profonds, on pourrait dire, du cœur sacré de Jésus, même avant l'incarnation. Mais l'incarnation, on est bien sûr la conséquence de ces sentiments, de cet amour. Et notre Seigneur prend la nature humaine pour pouvoir s'offrir à son Père, pour pouvoir se donner à son Père, à la place de l'homme déchu, pour sauver l'homme. Et c'est la rédemption qui s'enclenche à ce moment-là. Le mystère de l'incarnation, de l'union du divin et de l'humain, de l'humanité, de la divinité dans la seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, Mgr Lefebvre a évoqué dans ce serment, dans ce même serment des ordinations, le mystère de l'incarnation, et il a appliqué à la situation de l'Église en expliquant comment ceux qui exagèrent la divinité de l'Église ne veulent pas voir les terribles fautes qui se commettent de la part de ces agents humains. Par contre, ceux qui veulent exagérer trop la part humaine des actuels dirigeants de l'Église et qui perdent de vue les promesses divines, perdent également leur équilibre. Que l'on perde son équilibre à droite ou à gauche, le diable, cela c'est indifférent au diable, pour vous que nous perdions notre équilibre. Et alors, dans toutes ces questions de l'Église, Mgr Lefebvre évoquait à ce moment-là, notre équilibre est en quelque sorte l'équilibre de l'union hypostatique, de l'union de l'humanité, de la divinité en notre Seigneur Jésus-Christ et dans toute son Église. Mystère dans lequel le prêtre, avec son humanité, avec sa mission divine et sa nature humaine, avec ses pouvoirs divins et ses misères humaines, mystère dans lequel le prêtre sera bien plongé. De l'incarnation découlent les sacrements, tous également une combinaison du divin et de l'humain, d'un élément souvent très matériel, l'eau, l'huile, le pain, le vin, et une grâce toute divine, la grâce surnaturelle qui passe avec chacun de ces petits sacrements, pour ainsi dire. Petit du point de vue du matériel dont notre Seigneur se sert pour faire passer sa grâce. Le principal de ces sacrements, la raison d'être même du prêtre, ce mystère encore inouï de la Sainte Eucharistie, la messe qui sera la vie même du prêtre, le plus important de tout ce qu'il fera dans sa vie sacerdotale. La transsubstantiation par laquelle la substance du pain devient la substance du corps de notre Seigneur et la substance du vin, la substance de son sang. Pour que justement, voilà la façon, l'invention divine, il n'y a qu'un Dieu qui aurait pu inventer quelque chose de semblable. L'invention divine par laquelle notre Seigneur a justement pensé à continuer l'offrande de lui-même à son Père. Et chaque fois, cette offrande, cette disposition profonde de l'âme de notre Seigneur, cette disposition radicale, me voici, tu n'as plus voulu, Seigneur des holocaustes, me voici pour faire ta volonté. Et notre Seigneur actualise cette offrande, bien sûr, le sommet de l'actualisation de cette offrande, c'est bien l'offrande de lui-même en croix, et la continuation miraculeuse de cette offrande en croix, c'est la Sainte Messe. Et alors, en célébrant la messe, le prêtre est en plein, il opère la transsubstantiation, il continue l'incarnation et il est plongé dans la vie intérieure, il est entraîné dans la vie intérieure de la Sainte Trinité en offrant sa personne comme instrument pour notre Seigneur de continuer cette offrande de lui-même à son Père. Un quatrième mystère, également énorme, son propre sacerdoce, le sacrement donc de l'ordre. On prend un homme parmi les pécheurs, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux toujours. On prend un homme, l'Église, notre Seigneur, prend un homme parmi les pécheurs et fait de lui un autre Christ, tout en lui laissant sa nature humaine. Grand mystère. Cet autre Christ, saint Paul le résume en disant, nous portons ce trésor dans un vaisseau fragile. Le trésor de son sacerdoce, le trésor de cette participation à l'union hypostatique, ce caractère imprimé pour l'éternité sur son âme, que les protestants ne comprennent pas, les juifs non plus, qu'il n'y a que les catholiques qui comprennent comme quelque chose de réel, de physique, non pas physique matériel, mais physique réel, physique spirituel, un sceau, un caractère imprimé sur son âme qui lui donne un pouvoir qu'il n'avait absolument pas avant cette imposition des mains et la prononciation des paroles d'ordination, ce pouvoir, les pouvoirs inouïs du sacerdoce, les pouvoirs notamment de pardonner les péchés et de célébrer, d'opérer la transsubstantiation, c'est-à-dire de célébrer la messe. Ce n'est pas tout comme, mais un peu comme un pianiste et un autre homme ont des 10 doigts apparemment semblables. Mais dans les doigts du pianiste, il y a une capacité de jouer des pièces très compliquées de musique qu'il n'y a absolument pas dans les doigts de l'autre. C'est une comparaison pauvre, mais enfin, cette capacité que l'on ne voit pas, mais qui est absolument réelle dans les doigts du pianiste, eh bien, que les protestants comprennent que c'est quelque chose de tout à fait aussi réel, encore beaucoup plus grand, surnaturel évidemment, cette capacité, ce pouvoir de faire la transsubstantiation qui est maintenant, dès son ordination, dans l'âme du prêtre et qui ne le quittera plus jamais, plus pour l'éternité. Et ce trésor, il porte dans une nature fragile. Et nous voyons dans la fraternité, nous voyons cette fragilité, si vous voulez, par le nombre, hélas, de prêtres qui ne gardent pas, qui ne réussissent pas à garder la crête, à garder la ligne de la fraternité. Et nous la voyons en dehors de la fraternité, combien plus, bien sûr, combien de pauvres prêtres qui ont quitté, que le diable a trompé et qu'il a persuadé à abandonner leur sacerdoce. Et un dernier mystère, si vous voulez, le mystère que notre Seigneur confie son corps et son sang, son Église, à de pauvres prêtres, et ces prêtres, il confie à la direction de leurs semblables, d'autres hommes. Miracle d'amour, choix d'amour, choix incomparable d'amour. que notre Seigneur ait voulu mettre son Église, ses trésors les plus précieux, entre les mains des hommes qui gardent le libre arbitre et qui gardent encore la liberté de tout mettre par terre. Mystère d'amour. Et encore un mystère dans lequel les jeunes prêtres seront plongés, dans ce sens qu'ils sont aujourd'hui livrés à des hommes d'Église qui mettent tout par terre. C'est vraiment, et cela continue chaque année que nous revenons, que nous nous rencontrons ici, chaque année davantage, c'est une angoisse pour nous autres catholiques de constater ce qui se passe à la tête de l'Église. Parmi ceux qui devraient être les pasteurs, c'est un chagrin, une douleur, une angoisse, et cette angoisse continue chaque jour plus. La confusion ne fait que s'augmenter. Vous savez, je me doute, la grande majorité d'entre vous, qu'il n'y a pour le moment rien qui indique un retournement. Tout indique au contraire que la confusion et dans le monde et dans l'Église deviendra encore beaucoup pire. Et ces courageux jeunes prêtres, c'est à cette situation-là, parmi les fidèles, parmi les évêques, dans l'Église et dans le monde, c'est à cette situation-là, à cette tourmente-là qu'ils doivent faire face. C'est dans cette tourmente-là qu'ils doivent apprendre à naviguer. Et le nombre de leurs confrères qui font faillite, pour ainsi dire, est la preuve que ce n'est pas chose facile. Consolons-nous avec quelques considérations sur Saint-Pierre. La messe, c'est bien sa fête aujourd'hui. Et c'est une très belle fête, une très belle messe. Et hier, il y eut une messe de vigile aussi. Et dans la messe, dans cette messe, l'épître de cette messe évoque l'épisode où Saint-Pierre est en prison et où il est sauvé par l'ange. L'ange vient ouvrir les portes de la prison. Saint-Pierre ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais une fois qu'il est dehors, il comprend bien, il a été miraculeusement libéré. C'est un bel épisode, mais dans cet épisode-là, Pierre n'a pas perdu la tête. Il y a eu une petite confusion, a-t-il été sauvé ou non, mais c'est sans importance cette petite confusion-là. On comprend bien que la messe évoque, la messe de Saint-Pierre évoque cet épisode-là, et non pas un épisode bien plus douloureux dans l'histoire de Saint-Pierre, mais que Saint-Pierre lui-même, par humilité, aurait peut-être préféré pour cette messe. L'épisode dans le jardin de Gethsémani. Pierre est courageux. Pierre aime beaucoup son bien-aimé maître. Il veut le défendre, il a l'intention de le défendre jusqu'à la mort. Il a pris le glaive, il a avec lui un glaive. Les méchants commencent à mettre la main sur le maître. Pierre sort son glaive et commence à tailler à droite et à gauche. Il y a une oreille qui saute. Au divin maître de remettre l'oreille et de guérir. Pierre, remets ton glaive. Car, etc., vous connaissez les paroles de notre Seigneur à ce moment-là. Mais notre Seigneur a beau expliquer que les Écritures doivent s'accomplir, que celui qui prend le glaive périra par le glaive. Saint-Pierre ne comprend plus. C'est, souvenez-vous aussi, l'heure des ténèbres, c'est votre heure, dit notre Seigneur, en direction de Satan, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Tout comme aujourd'hui, votre heure de Satan est la puissance des ténèbres. Et Satan, comme possède l'atmosphère, et remarquez, notre Seigneur n'a pas voulu se défendre physiquement, par les moyens physiques. Imaginez-vous, Lazare est riche, Lazare est puissant. Notre Seigneur aurait facilement pu, il le dit, appeler non seulement 12 légions d'anges, Il aurait pu aussi préparer un garde-corps par le moyen de Lazare. Lazare l'aurait mis sur pied avec la plus grande facilité. Mais nous ne voyons pas de Lazare dans la Passion. Pas une mention. Nous imaginons l'angoisse de Lazare et combien il aura voulu. Alors que devons-nous penser? Notre Seigneur n'a pas voulu que Lazare y soit ou que Lazare aide de cette manière-là. Qu'a-t-il voulu de Pierre? Pierre, veillez et priez, a-t-il dit notre Seigneur, quelques moments avant ce moment de confusion de Pierre. Veillez et priez, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et justement, Saint Pierre prie dans la confusion du moment, prie dans cette heure des ténèbres et de cette heure de Satan. Pierre perd la tête et il s'enfuit. Et les 10 autres apôtres avec lui, tous quittent notre Seigneur en ce moment satanique. Pierre y compris. Et quelques moments plus tard, quelques heures plus tard, vous vous souvenez bien, le même Pierre renie 3 fois son divin maître. Il l'aime, c'est parce qu'il l'aime qu'il l'a suivi jusque dans la cour du grand prêtre. Mais là, il le renie par 3 fois et il pleure amèrement. Eh bien, aujourd'hui, chers diacres, mes chers frères, nous voyons en quelque sorte la même chose. La confusion la plus terrible à la tête de l'Église, y compris dans la tête de Pierre. Mais notre Seigneur l'avait prévu et notre Seigneur l'a permis. Et rien de tout cela n'échappe au plan de notre Seigneur. Notre Seigneur a dit quelques moments avant, Satan a désiré vous cribler comme du froment. Vous criblez, vous autres apôtres, vous au pluriel. Mais Pierre, j'ai prié pour toi au singulier. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu te seras converti, confirme tes frères. Alors, aujourd'hui également, nous pouvons penser que tout comme la foi de Saint-Pierre à ce moment-là avait massivement, mais pas totalement défailli, massivement, il s'est enfui, il a renié 3 fois son maître, mais pas totalement. Parce que il est après s'être enfui, il est revenu avec Jean dans la cour du grand prêtre. Et lorsqu'il a renié 3 fois son maître, il pleure. S'il avait perdu la foi totalement, il n'aurait pas pleuré. Qu'est-ce qu'il aurait abandonné? Un homme, rien qu'un homme. Mais il a bien conscience qu'il a trahi bien plus qu'un homme. Et c'est pour cela qu'il pleure. Alors Saint-Pierre, à ce moment-là, a perdu massivement, mais pas totalement, la foi. Et sur les chefs actuels de l'Église, je me permets d'émettre l'opinion qu'ils ont perdu massivement, mais pas totalement, la foi. Et j'en prendrai comme preuve la résistance des radicaux, des libéraux acharnés, l'acharnement, la rage des libéraux radicaux, qui n'obtiennent pas tout ce qu'ils voudraient, qui n'obtiennent toujours pas, même malgré tout ce qu'ils ont obtenu depuis le Concile, dans le Concile et depuis, il y a quand même quelque chose qu'ils n'obtiennent pas. Pierre ne démissionne pas, même aujourd'hui, pas totalement. Il tient encore, il met en place encore des évêques conservateurs. Vous et moi, nous savons que ces évêques conservateurs sont parfois bien plus dangereux que les évêques ouvertement libéraux. Mais de la part du Saint-Père, cela indique une volonté de ne pas tout laisser aller avec les radicaux. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu te seras converti, confirme tes frères dans la foi. Et voilà ce que nous pouvons penser va arriver. Certainement, vous tous, nous le savons, ce Pierre-ci ou son successeur va se convertir. Il va voir clair. Et si c'est ce Pierre-ci, on peut bien imaginer qu'il va pleurer et pleurer amèrement. Et je crois qu'aucun d'entre nous ne lui en voudra à ce moment-là de pleurer amèrement. Au contraire, nous nous réjouirons quand ce moment arrivera, si c'est pour ce pape-ci. En tout cas, d'ici là, ce moment de la conversion du Père, de Pierre, nous ne savons pas quand il arrive. Nous savons avec la certitude de la foi que ce moment arrivera tout comme il est arrivé pour Pierre. Et Pierre n'a plus eu de confusion à partir de ce moment-là. Que faut-il faire d'ici là? Eh bien, dans ces heures de ténèbres, dans ce pouvoir de Satan, nous devons imiter la très sainte Vierge. Dans ces heures terribles entre le crucifiement de son Fils et sa résurrection le dimanche matin, la très sainte Vierge a terriblement souffert, mais elle n'a pas chancelé dans la foi. Tous les autres, oui, car même les braves femmes, les saintes femmes, si elles se rendent le dimanche matin au tombeau pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils ne croyaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne s'attendaient absolument pas à la résurrection. Tandis que la Sainte Vierge ne pensait que à la résurrection durant ces moments terribles. Et les apôtres, c'est elle qui les a confirmés à ce moment-là, jusqu'à la conversion de Pierre, qui se sera pleinement opérée en compagnie de notre Seigneur quelques heures plus tard. Mais les saintes femmes, les apôtres, tous ont chancelé, la Sainte Vierge pas. Et imaginez-vous si, durant ces heures terribles, la Sainte Vierge a fait des reproches à Pierre. Non. Non. Alors, très cher diacre, prenez beaucoup de courage et ayez beaucoup de foi et beaucoup de confiance. Ayez la foi, cette foi qu'a eue la Sainte Vierge dans ces moments si terribles. La Sainte Vierge est toujours avec nous. Elle attend comme nous, elle prie comme nous pour la conversion de Pierre. Elle se réjouira comme nous de cette conversion quand elle arrivera, au moment voulu de Dieu. Eh bien, restons bien fidèles aux côtés de la Sainte Vierge et restons bien fidèles dans la ligne de cette fraternité que la Sainte Vierge et Saint Pie X ont suscité pour défendre et aider l'Église. Nous ne sommes pas l'Église, nous sommes bien de l'Église. Mais l'Église est bien plus grande que la fraternité, bien, bien plus grande. Et notre rôle, c'est de venir en aide à l'Église, c'est de servir l'Église, c'est de garder la flamme sacrée jusqu'au retour de l'Église, pour ainsi dire. Je vous donne une petite comparaison. Un four à gaz qui s'allume quand vous mettez le gaz. C'est pas, il y a le petit cercle qui s'allume quand vous mettez le gaz. Quand vous éteignez le gaz, il ne reste qu'une petite flamme pilote. C'est le nom. La petite flamme pilote. Mes chers amis, nous sommes la flamme pilote de l'Église. Ce n'est pas nous. La flamme pilote ne peut pas faire revenir le gaz. C'est quelqu'un d'autre qui doit appuyer pour que le gaz revienne. Mais quand le gaz reviendra, c'est nous qui allumerons. Alors nous attendons l'heure de Dieu pour qu'il sauve son Église. Nous attendons que Dieu remette le gaz. je dis secundum humanum dico, comme dit saint Paul. Mais lorsque cette vie, cette foi reviendra dans l'Église, c'est chez nous autres, inutiles serviteurs que nous sommes, malgré notre inutilité, c'est chez nous que tous ces catholiques retrouveront le vrai sacerdoce et la vraie messe. Et combien, à ce moment-là, ils remercieront Monseigneur Lefebvre, et combien ils remercieront tous les prêtres qui sont restés dans la ligne et aux côtés de Monseigneur Lefebvre, y compris parmi ces douzaines, espérons tous les douze, de la messe d'aujourd'hui. Alors, chers diacres, ayez une forte foi et sachez attendre l'heure de Dieu et sachez garder fidèlement les trésors énormes que Dieu vous confie et qui vous confiera aujourd'hui. Et pour ce faire,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, bien chers fidèles, c'est avec grande joie que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour conférer le sacrement de confirmation à plusieurs des enfants de vos familles. Je m'adresserai donc, si vous voulez bien, aux enfants, aux confirmants. Chers enfants, je vous adresserai les paroles que le prêtre adressait à vos parrains et marraines lors de votre baptême. Que demandez-vous de l'Église de Dieu? Vos parrains et marraines ont répondu en votre nom, la foi. Et le prêtre insistait, et que vous procure la foi? Et vos parrains et marraines ont répondu, la vie éternelle. Et ainsi vous avez été baptisés, vous avez été faits enfants de Dieu et de l'Église. Vous avez été baptisés au nom de la Trinité Sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous voulez recevoir cet autre grand sacrement de l'Église, la confirmation, qui va vous donner le Saint-Esprit. Vous me direz peut-être, mais nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, sinon nous ne serions même pas chrétiens. Et quand avez-vous reçu le Saint-Esprit, mes chers enfants? Mais le jour de votre baptême, bien sûr, où vous avez été, comme je vous le disais, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la forme même du sacrement de baptême. Certainement, vous avez déjà dans votre âme le Saint-Esprit qui habite avec toute la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Du moins, pourvu que votre âme ait gardé l'innocence du baptême, l'état de grâce, n'est-ce pas? Une âme en état de grâce, la Sainte Trinité habite en elle. Alors, à quoi bon, peut-être, vous demandez-vous, à quoi bon recevoir la confirmation? C'est que, voyez-vous, vous n'êtes déjà plus tout à fait des enfants, et bientôt, vous serez des adultes, vous serez des grandes personnes. Et le combat d'un enfant n'est pas le même que le combat d'un adulte. Le baptême suffisait pour le combat d'un enfant, c'est-à-dire se laisser bien former par ses parents et par ses maîtres, dans la foi catholique, dans les vertus chrétiennes. Mais le combat d'un adulte, c'est le combat de celui qui doit désormais témoigner de sa foi, non seulement vivre sa foi, mais témoigner de sa foi autour de soi. Le confirmé devient un témoin de Jésus-Christ. Vous avez donc besoin d'une nouvelle abondance de la grâce sanctifiante, et plus précisément, d'une nouvelle abondance des dons du Saint-Esprit qui vont venir orner votre âme en plus grande abondance. Revenons, si vous voulez, sur les deux grands dons que le Saint-Esprit va vous faire aujourd'hui. d'abord le caractère du sacrement de confirmation et ensuite la grâce de ce sacrement. Le sacrement de confirmation, d'abord, imprime dans votre âme un caractère indélébile, une marque, un sceau, comme quelque chose qui est imprimé dans la cire, voyez, et qui y demeure. Eh bien, la confirmation va imprégner votre âme de la marque de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une marque que personne ne pourra effacer. Même pas dans l'éternité, ça ne disparaîtra pas. Vous serez désormais un chrétien confirmé. C'est un petit peu comme une insigne de la vie chrétienne que vous allez désormais porter. Comme dans une armée, il y a les porte-drapeaux qui marchent à la tête de l'armée et qui doivent défendre l'emblème de la nation contre ceux qui voudraient l'arracher. De même, le confirmé porte en lui, d'une manière invisible, l'insigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils doivent bien prendre garde de ne pas renier cet insigne. Voilà. Comme les jeunes croisés de l'hostie, de la croisade d'Eucharistie, portent fièrement l'insigne de la croisade. Ils le portent, mais à l'intérieur de leur cœur, ils doivent bien prendre garde de renier leur engagement. Bien de même, voyez, c'est un signe indélébile, invisible, qui est dans votre âme. Désormais, vous devrez y être fidèle. Vous êtes marqué du sceau de Jésus-Christ. Et ensuite, la confirmation vous donne une grâce spéciale, la grâce du sacrement de confirmation, qui est un droit à des secours tout à fait spéciaux de notre Seigneur. Un droit aux sept dons du Saint-Esprit. Un droit à recevoir docilement les inspirations du Saint-Esprit. C'est cela la grâce de la confirmation. Des inspirations tout à fait spéciales qui vous rendront capables de témoigner de votre foi et de combattre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne aujourd'hui. On parle des sept dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui vous ont déjà été donnés au baptême et qui sont augmentés aujourd'hui sont comme des voiles que vous allez déployer pour que le vent, le souffle du Saint-Esprit, gonfle ses voiles et vous pousse en avant, au large, dans la mer de la vie chrétienne, pour arriver, à la fin de votre vie, au port du salut. C'est une image qui vous fait comprendre que les sept dons sont cette docilité divine à la grâce du Saint-Esprit. On pourrait aussi les comparer à cette antenne qui vous permet de capter des antennes spirituelles invisibles, c'est pas, qui vous permet de capter les inspirations du bon Dieu, les bonnes inspirations du bon Dieu, et qui vous aide alors à triompher dans le combat chrétien. Vous les connaissez, vous les avez appris au catéchisme. La sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la force et la crainte de Dieu. Peut-être c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Regardez la vie des saints. Ils avaient tous les dons du Saint-Esprit, bien sûr, et ils les ont déployés d'une manière admirable. Regardez Sainte Thérèse d'Avila, qui, dans sa contemplation très haute du bon Dieu, des mystères du bon Dieu, était toute enflammée d'amour. C'était comme un séraphin d'amour, Sainte Thérèse d'Avila, grâce au don de sagesse qui vous est donné pour contempler le bon Dieu, pour aimer et contempler Dieu dans son mystère. Ensuite, le don d'intelligence. Regardez, par exemple saint Thomas d'Aquin, le prince des théologiens, le théologien des théologiens, l'humble frère Thomas, dominicain, qui est devenu, par la grâce de Dieu, par l'étude, mais aussi par le don d'intelligence, le plus grand des théologiens, saint Thomas d'Aquin, celui qu'on prie spécialement dans les études, pour que le Saint-Esprit daigne nous éclairer, nous faire pénétrer un petit peu, nous donner une petite intelligence des mystères divins qui nous dépassent tellement. Mystère de la Sainte Trinité, mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu fait homme, tout cela nous dépasse tellement. Alors le don d'intelligence nous aide à comprendre un petit peu ce que les bienheureux au ciel voient face à face. Mes chers enfants, vous allez recevoir le don d'intelligence. De même, le don de science. Regardez saint François d'Assise, combien une petite fleur, un petit oiseau, lui parlait du bon Dieu. Eh bien nous, en voyant la belle nature créée par Dieu, nous savons y voir la trace du Créateur, n'est-ce pas? Nous sommes habitués à contempler nos belles montagnes, ou le lac, eh bien nous voyons le Créateur qui a fait tout cela. Et par la beauté des humbles créatures, nous devinons la beauté immense de Dieu que nous irons contempler, nous espérons, au ciel. Vous voyez déjà, ces dons de sagesse, d'intelligence, de science nous aident à aimer Dieu, à le connaître davantage. Et puis le don de science, vous voyez, comme saint François d'Assise qui a tout quitté pour devenir un religieux. Il a abandonné sa famille, son métier, son argent, tout cela il l'a laissé, pour suivre Dieu seul. Et bien de même, le don de science nous aide aussi à mépriser les biens de ce monde, pour nous détacher des créatures, pour nous donner tout entier à Dieu. Ensuite, la confirmation va augmenter en vous le don de conseil, qui est précieux dans tous les combats, quand il y a des difficultés, quand il y a des décisions difficiles à prendre. Alors on prie le Saint-Esprit. Esprit Saint, daignez m'inspirer. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je décider? Voyez l'exemple des saints, sainte Jeanne d'Arc, qui toute sa vie a reçu ses voix divines. Elle entendait des voix de l'archange Saint-Michel, de sainte Catherine, de sainte Marguerite, qui lui disait: va, fille de France, va libérer ta patrie oppressée, occupée par l'étranger, par l'ennemi. Voilà. Eh bien, elle a suivi ses voies et elle a combattu vaillamment, fidèle aux inspirations du Saint-Esprit. Elle était toute docile à ce que lui disait le bon Dieu par la voix de sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel Archange. C'était le don de conseil qui soufflait puissamment en elle. Alors vous, chers confirmés, vous allez aussi avoir ce don de conseil qui vous guidera dans la vie pour éviter les embûches du démon. Ensuite, le don de piété qui est si précieux. Voyez saint Vincent de Paul, l'ami des pauvres. Il voyait dans le bon Dieu un père qu'il aimait tendrement, et dans son prochain, surtout dans les pauvres, il voyait des frères en Jésus-Christ. Il reconnaissait dans le visage d'un lépreux, dans le visage d'un mendiant, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il se considérait comme le frère de ces pauvres. C'est le don de piété qui nous fera aimer notre prochain, vivre en paix avec ceux qui nous entourent et puis leur faire du bien, avoir cette charité, cette miséricorde envers notre prochain, faire l'aumône. C'est le don de piété. Ensuite, le don de force que vous avez demandé spécialement pour être fort dans le combat. Le don de force nous aide pour résister aux tentations du diable. le démon est là, qui nous tourne autour, souvent, le don de force souffle à ce moment-là et nous fait chasser le démon, comme c'est précieux d'avoir le don de force. Et enfin, mes chers enfants, le don de crainte de Dieu. Si le don de force, on le trouve par exemple chez de grands saints comme saint Athanase, qui a lutté toute sa vie pour garder la foi. On l'a excommunié, vous le savez, injustement, parce qu'il gardait la foi catholique. Mais lui, fermement, avec la force, il est resté fidèle à la foi catholique. C'est notre combat aujourd'hui. Tandis que le don de crainte de Dieu, lui, nous fait craindre par-dessus tout d'offenser le bon Dieu. Et nous fait avoir une grande confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. Voyez la petite Thérèse, l'enfant Jésus, elle était pénétrée du don de crainte de Dieu, tellement qu'elle ne craignait plus le bon Dieu, elle ne craignait plus les châtiments dont Dieu punit les méchants en enfer, non ? Elle ne craignait plus la justice ou le jugement divin, elle avait une tellement grande confiance dans la miséricorde de Dieu. C'est une sainte, mais cette confiance en l'amour miséricordieux infini du bon Dieu lui faisait regarder Dieu comme un ami, comme quelqu'un qui l'aimait, qui la soutiendrait, qui la consolerait, qui lui pardonnerait ses misères aussi. Comme c'est important dans la vie, mes chers enfants, de ne jamais perdre confiance dans le pardon de Dieu. Comme il y a tant de misérables qui désespèrent de la miséricorde divine. « J'en ai tant fait dans la vie, » disent-ils. « Est-ce que le bon Dieu pourra me pardonner ?» Quel malheur de dire cela. Vous, mes chers enfants, ne perdez jamais confiance dans la miséricorde du bon Dieu. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus est là pour nous l'expliquer, qui est devenue une grande sainte. Voilà les 7 dons précieux qui vous seront donnés aujourd'hui en grande abondance. Pourquoi cela? Je dirais pour un combat qui est double. Mes chers enfants, vous avez maintenant désormais un combat, un double combat à mener. Le combat actuel, qui est le combat de la foi, et puis le combat actuel qui est aussi le combat de la vertu de chasteté, la pureté. Le combat de la foi, nous le voyons bien. Nous comprenons bien ce que c'est, qu'on le voit même dans nos chères familles, bien souvent, telle personne qui a perdu la foi, qui ne vient plus à la messe, qui a apostasié, qui ne croit même plus en Jésus-Christ, peut-être même qui ne croit même plus qu'il y a un Dieu. Elles ont perdu la foi, ces personnes-là. Quel malheur! Et vous, mes chers enfants, grâce à vos parents, eh oui, vous avez gardé la foi. La foi toute pure de votre baptême. Chers parents, considérez-vous comme votre premier devoir celui de transmettre la foi à vos enfants. C'est cela la charge la plus importante des parents. Non seulement donner la vie, accepter, consentir à donner la vie à de nombreux enfants, si le bon Dieu le permet, mais surtout leur transmettre le flambeau de la foi. Donc, chers enfants, remerciez vos parents de vous avoir transmis cette flamme de la foi. Ne permettez pas aux démons, aux hérésies, à toutes les tentations du monde de venir effacer, de venir souffler cette flamme de la foi. Gardez-la toujours, comme disait le prêtre le jour de votre baptême, quand il a remis le cierge à votre parrain et à votre marraine, il disait « Gardez ce cierge, gardez cette flamme qu'elle ne s'éteigne pas. » Et puis, deuxième combat, le premier combat, c'est le combat de tous les martyrs chrétiens qui sont morts plutôt que de renier leur foi. On leur disait « Brûle un grain d'encens à Jupiter et tu auras la vie sauve. » Et même des enfants, c'était terrible cette tentation. Eh bien, ils ont dit « Non, nous ne brûlerons pas un grain d'encens aux idoles païennes. Nous n'avons qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, avec son Père et le Saint-Esprit. Nous n'avons pas renié notre foi. » Et ils ont préféré mourir, martyrs, plutôt que de renier Jésus-Christ. C'est le modèle de tous les confirmés. combat de la foi. Et puis, le combat pour la sainte vertu de pureté. Voyez aussi autour de vous, bien de nombreux jeunes sont plongés dans l'impureté. Ils vivent mal. Eh bien, vous, que ce ne soit pas votre cas, priez, suppliez les saintes vierges des premiers temps de l'Église, celles que le prêtre mentionne au canon de la messe, sainte Agnès, sainte Agathe, sainte Lucie, sainte Anastasie, qui souvent étaient fiancées de force à des païens, alors qu'elles avaient promis à Dieu leur virginité. Elles étaient toutes consacrées au bon Dieu. Elles ont préféré mourir, martyr, plutôt que de subir l'outrage à leur virginité. Quel exemple pour nous. Il n'y a pas si longtemps, 1950, ça fait à peine 40 ans, une sainte, sainte Marie Goretti, une humble jeune fille qui avait 15-16 ans, même pas peut-être, a préféré aussi le martyr plutôt que de perdre la fleur de la virginité. Quel exemple. Menons ce double combat, mes chers enfants, le combat de la foi et le combat de la chasteté, le combat de la pureté. Demandez humblement à l'Esprit Saint aujourd'hui de garder votre foi ferme et le lisse de votre pureté bien pure. C'est cette grâce que nous demanderons pour vous tous au cours de la messe qui suivra le sacrement de confirmation. Par l'intercession, bien sûr, cette grâce du Saint-Esprit, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit, celle qui était remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Elle avait la plénitude des sept dons du Saint-Esprit. Elle vous aidera dans ce double combat, le combat de la foi et le combat de la chasteté chrétienne. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
See you later. Thank you.